Cordel entre son numéro de code, hésite et jette un coup d'œil par-dessus son épaule droite, son regard suivant quelque chose qui passe derrière lui. La Cherokee en train de se garer dans le parking. Cordel finit de pianoter, mais a brusquement l'air inquiet. Personne n'aime aller retirer de l'argent le soir, même lorsque le distributeur est bien éclairé et situé dans un quartier peu dangereux. McCaleb n'en tirait lui-même qu'à une machine installée dans un supermarché ouvert 24 heures sur 24, la foule jouant le rôle d'arme de dissuasion. Cordel regarde par-dessus son épaule d'un air tendu, puis adresse un signe de tête à quelqu'un hors écran et concentre à nouveau son attention sur le distributeur. L'inconnu ne semblant pas l'avoir inquiété davantage, il est clair que l'assassin ne s'est pas encore masqué le visage. Et il est probable que, malgré son calme apparent, Cordel, qui regarde attentivement la fente habillée, se répète quelque chose du genre « Vite, nom de Dieu, vite !» Puis, c'est presque aussitôt l'arme de l'assassin qui entre dans le champ, passe par-dessus l'épaule de Cordel et lui effleure à peine la tempe avant que le tueur décide d'appuyer sur la détente. Un brouillard de sang se répand sur la lentille de la caméra. Cordel part en avant sur la droite, semble s'écraser dans le mur où est encastré le distributeur, puis repart en arrière et s'écroule. Le tireur entre dans le champ et s'empare des billets à mesure qu'ils sortent de la fente. McCaleb ayant arrêté l'image sur ce plan, le visage masqué du tueur occupa aussitôt tout l'écran. L'homme portait les mêmes passementagnes et combinaisons foncées que l'assassin de Gloria Torres. Comme le lui avait dit Winston, l'expertise balistique n'aurait fait que confirmer scientifiquement ce que Jay d'abord et lui maintenant savaient déjà au plus profond de leur cœur. Mêmes habits, même modus operandi, mêmes yeux morts dans les trous du passe-montagne. C'était évidemment au même bonhomme qu'on avait affaire. McCaleb appuya de nouveau sur la touche play. Le tireur s'empare du fric et donne l'impression de dire quelque chose, sauf que son visage n'est pas pile en face de la lentille comme dans l'enregistrement réalisé à la supérette. Cette fois-ci, on dirait plutôt qu'il se parle à lui-même. Puis, il se porte brusquement sur la gauche de l'écran et se baisse pour ramasser quelque chose qu'on ne voit pas, la douille. Il repart enfin sur la droite et disparaît du champ. McCaleb continua de regarder la bande encore un instant. Seule, la forme de Cordel gisant par terre au pied du distributeur était visible. Et pour tout mouvement, il n'y avait plus maintenant que la mare de sang qui grandissait autour de sa tête. Coulant dans le sens de la pente, le liquide se glissait déjà dans une fissure du trottoir vers le caniveau. Une minute plus tard, c'est un autre homme qui entre dans le champ de la caméra et se penche sur le cadavre de Cordel, James Noon. Trapu et chauve sur le dessus, il porte des lunettes à monture fine. Il touche le cou du blessé, puis se retourne, sans doute pour s'assurer qu'il est lui-même en sécurité. Puis il bondit et file pour aller téléphoner avec son cellulaire, c'est probable. 30 secondes plus tard, il reparaît à l'écran et se met à attendre de l'aide. Il tourne souvent la tête à droite et à gauche et semble craindre que s'il n'a pas vraiment filé en voiture, le tueur ne rôde dans les environs. Pour finir, son attention est attirée par quelque chose dans la rue. Il ouvre la bouche, crie et agite les bras au-dessus de sa tête en regardant passer l'ambulance. Puis il bondit à nouveau et une fois de plus sort du champ de la caméra. Quelques instants plus tard, c'est l'écran qui tremble. McCaleb vérifia l'heure et découvrit que 7 minutes avaient passé. 2 ambulanciers s'affairent autour de Cordel. Ils vérifient son pouls et la réaction pupillaire. Puis l'un des 2 hommes lui ouvre sa chemise et l'ausculte avec un stéthoscope, l'autre revenant très vite avec un brancard. Mais le premier le regarde et secoue la tête. Cordel est mort. Quelques instants plus tard, l'écran est vide. Après avoir marqué une pause, par respect ou presque, McCaleb passa à la bande des premières constatations. La scène avait été manifestement filmée avec une caméra tenue à la main. Au début, c'était quelques plans généraux de la banque et de la rue. Dans le parking, 2 véhicules. Une Chevrolet blanche, modèle Suburban, tellement énorme qu'elle masquait l'autre qui était garé de l'autre côté. McCaleb supposa que l'automobile appartenait à Cordel. Grosse et solide, elle était toute poussiéreuse d'avoir roulé dans la montagne et sur les routes du désert près de l'aqueduc. L'autre devait donc être la voiture du témoin James Noon.